Louis-Marie, après tous ces mercredis d'entretien, nous retrouvons vos conseils ciné, ce que moi je préfère personnellement. Alors, qu'avez-vous retenu pour aujourd'hui?
Eh bien, l'évocation par sa fille d'un maître du cinéma italien, le retour d'une figure du cinéma mondial et le film de la confirmation d'un talent.
Alors, qui est ce maître italien? Éclairez ma lanterne, Louis-Marie.
C'est Luigi Comencini. Dans Prima la Vita, Francesca Comencini raconte les mondes de l'enfance qu'elle a habité avec son père, puis ce moment où l'enchantement disparaît avec l'âge adulte. Les rapports se compliquent alors au point qu'elle risque de sombrer. Son père reste présent. Il sera là pour elle tout le temps qu'il faudra. Francesca Comencini s'interroge sur la manière de s'émanciper de l'influence artistique et du souvenir imposant de son père. À travers une autofiction, elle parvient à plus de 60 ans à se définir pleinement comme réalisatrice en proposant une œuvre singulière qui réinvente la mémoire des événements et affirme une esthétique personnelle. Son film s'inscrit dans une continuité cinématographique en naviguant entre noir et blanc, cinéma muet, couleurs éclatantes. Elle offre ainsi une réflexion sur la capacité du 7e art à ouvrir des fenêtres sur le réel, avec une attention remarquable portée au cadrage, à la lumière et à la photographie. Le montage dépouillé mais précis allie réalisme et onirisme. Elle joue magistralement avec les illusions du cinéma, questionnant comment s'émanciper de l'ombre imposante d'un père tout en transformant un sentiment d'échec en réussite artistique. Présenté hors compétition à la Mostra de Venise, le film ne pouvait pas recevoir de prix. Une reconnaissance qui aurait symboliquement marqué l'émancipation définitive de la réalisatrice vis-à-vis de son père, auréolée de récompenses. Plus qu'une simple œuvre personnelle, Prima la Vita rend hommage à la création artistique comme transcendance de la vie. Il se veut une réconciliation posthume, mais pose une interrogation poignante. Comment un réalisateur capable de dépeindre avec justesse les fragilités de l'enfance a-t-il pu marquer sa propre fille de manière si traumatisante? À travers les figures symboliques de Pinocchio et de la baleine, Francesca Comencini offre une œuvre à la fois intime et universelle où le cinéma devient une forme de libération, une réussite magistrale qui illustre toute la puissance de son art.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo. Piangevo, piangevo, per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù.
Après l'Italie, quelle est votre deuxième proposition de cinéma aujourd'hui?
Le dernier souffle, la nouvelle réalisation du toujours vert Costa Gavras qui aborde ici la question complexe de la fin de vie. Adapté du livre éponyme de Claude Grange et Régis Debray, le film suit la rencontre entre Augustin Massé, médecin en soins palliatifs, et Fabrice Toussaint, écrivain et philosophe. Célèbre pour ses films engagés dénonçant des injustices politiques et sociales, le cinéaste franco-grec explore cette fois un sujet existentiel en traitant la question de la mort inévitable et de la manière de la rendre plus acceptable. Son âge, 91 ans, l'a sans doute amené à porter ce thème sociétal brûlant à l'écran, mais quelle est donc la raison première? Costa Gavras.
C'est le livre que Régis m'a envoyé, Régis Debray, qui m'envoie toujours ses livres, j'ai lu, etc. J'ai découvert un monde que je n'imaginais pas du tout, les soins palliatifs. Et immédiatement, j'ai voulu rencontrer le docteur avec qui il avait écrit, on avait beaucoup parlé. J'ai découvert un homme très gentil, très doux, en parlant de ce problème-là d'une manière extraordinaire, et parlant aussi des soins palliatifs, qui est une invention depuis plusieurs années, mais qui, à mon avis, et à son avis aussi d'ailleurs, traîne. On n'a pas assez de lits comme on devrait. Alors je me suis dit, il y a là quelque chose qui m'intéresse. M'intéresse aussi, pourquoi? Parce que j'ai vu l'âge, la chose s'approche. Voilà. Et je pense qu'il faut s'habituer. Voilà. Il faut se préparer, d'une certaine manière. Je ne sais pas comment, mais il faut se préparer. En tout cas, il ne faut pas partir dans l'angoisse et dans l'humilité totale comme il arrive parfois. Alors j'ai voulu faire le scénario, j'ai dit comment je peux faire et j'ai commencé à travailler.
Le film, centré sur le docteur Augustin Massé, incarné par Cadmerade, responsable d'une unité de soins palliatifs, met en lumière une approche humaine et respectueuse de la fin de vie, à contre-courant de la médecine curative qui perçoit la mort comme un échec. La rencontre de Massé avec l'écrivain Fabrice Toussaint, Denis Podalydès, touché personnellement par la maladie, offre une réflexion profonde sur l'accompagnement du vivant à mourir. À travers des flashbacks et des consultations au chevet des mourants, Costa-Gavras mêle réalisme documentaire et fiction bienveillante, évitant pathos et voyeurisme. Sa mise en scène fluide alterne dialogues techniques, scènes émouvantes et moments de quotidien hospitalier. Ainsi, il peut aborder des problématiques essentielles comme le vieillissement de la population et l'acharnement thérapeutique. Porté par Cadmerade, surprenante sobriété, Denis Podalydès, hypochondriaque philosophe, et sa distribution féminine 4 étoiles, Marilyn Canto, Charlotte Rampling, Karine Viard ou encore Yamabas, Le Dernier Souffle délivre un message d'humanité célébrant la dignité et la vie jusqu'à la fin.
Et on a encore un peu de temps pour un dernier conseil, pour une dernière sortie ciné, Lou-Marie.
Le Mohican de Frédéric Farucci. En plein cœur de l'été, Joseph, l'un des derniers bergers du littoral corse, voit son terrain convoité par la mafia pour un projet immobilier. Il refuse de céder, cela signerait la fin d'un monde. Quand il tue accidentellement l'homme venu l'intimider, il est forcé de prendre la fuite et devient la proie d'une traque sans répit du sud au nord de l'île. Portée par sa nièce Vanina, la légende de Joseph, incarnant une résistance réputée impossible, grandit au fil des jours et se propage dans toute la Corse. Frédéric Farucci s'inspire des réalités sociopolitiques corses pour dépeindre la disparition progressive des bergers du littoral, remplacés par des complexes touristiques montés par la mafia. Son style réaliste, hérité de ses documentaires, permet au cinéaste corse de capturer les tensions croissantes entre tradition pastorale et intérêts mafieux, tout en conférant à son récit la dimension d'un conte. Frédéric Farucci.
Il y a une dimension de conte, effectivement, dans la mesure où, en partant d'une situation réelle et réaliste, à savoir un homme à qui on rend visite pour lui acheter son terrain, de manière un petit peu insistante, et qui dit non sans se justifier, sans donner aucune explication, qui dit non parce que pour lui ça signifierait la fin de son monde, mais c'est une démarche très singulière, très isolée, et le fait que derrière sa nièce choisisse de donner un contenu politique à ce nom, tente de faire de ce combat individuel un combat collectif en fait, le fait qu'elle y parvienne, on rentre peut-être dans le conte.
Joseph, interprété avec retenue par Alexis Mananti, incarne ce berger taiseux mais déterminé à préserver son mode de vie. Isolé, en pleine nature, il devient progressivement un symbole de résistance pour la population locale, aidé en cela par sa nièce Vanina, militante active sur les réseaux sociaux, qui dévoile la vérité sur les agissements mafieux. L'évolution du personnage de Joseph traduit une inversion des rapports de force où la peur semble changer de camp. Profondément politique, le Mohican offre une lecture éclairante et engagée sur les enjeux contemporains de l'île de Beauté, mêlant fiction et approche documentariste pour raconter la résilience d'un peuple face aux menaces pesant sur ses traditions.
Eh bien, merci beaucoup Louis-Marie pour cette nouvelle chronique Mercredi Cinéma.